Amis de la radio, amateurs de la libre expression, adeptes de la citoyenneté, bien le bonjour. C'est Eléa qui vous parle dans le microphone. Alors bienvenue sur Radio Active, la radio qui n'a pas peur de ses propos. Mais voilà donc aux commandes de cette troisième émission. Nous sommes déjà le vendredi 4 avril, comme le temps file. Ils évoqueront le racisme, l'immigration, la pollution, le sexisme, le harcèlement, Internet, mais aussi la radicalisation, les SDF, les amalgames, les médias et la déforestation. Je vais parler des élèves de 3e 4 du collège de la Source à Mout. Collège qui, depuis la semaine dernière, accueille notre radio dans son CDI, là où lumière et connaissances font bon ménage. Où que vous soyez, asseyez-vous donc sur un canapé, sur un banc en fleurs ou sur une plage de sable fin et préparez-vous pour une bonne heure d'actualité et de sujets mitonnés de réflexion bien pensé. Le tout accompagné de quelques instruments et de leurs interprètes, parce que la musique, c'est fantastique. Allez, assez parlé, j'accueille sans plus tarder nos premiers invités, Hugo et Ruben. Hugo, un adepte de l'escalade, qui a un assez bon niveau puisque vous avez fini deuxième de votre académie, c'est ça ?
Tout à fait.
Et vous êtes venu avec Ruben, un ami assez particulier puisqu'il rougit des oreilles. Donc, vous êtes venu pour nous parler de la déforestation et la parole est à vous. C'est parti.
Bonjour.
Donc, bonjour, oui. Vous ne l'ignorez pas. L'homme est un être doué d'une certaine intelligence, pour ne pas dire d'une intelligence certaine. Il est mature, fiable, généreux, aimable et pense avec sympathie aux générations futures. C'est un artiste. Il est un domaine dans lequel il excelle, particulièrement la destruction. Et le plus extraordinaire, la destruction de ce qui le nourrit et le protège. Et le plus étonnant est qu'il le fait avec un plaisir véritable. C'est pour dire à quel point il est intelligent.
La déforestation a des avantages infinis en construisant des autoroutes bien planes, bien droites, parce que les virages, ça donne le mal de mer. Bien écologique, l'homme, toujours avec un grand H, peut enfin profiter de cette bonne odeur de gasoil et de CO2 qui s'échappe des voitures. Il est vrai que chaque année, des centaines de personnes meurent à cause d'un platane. Il faut donc agir avec prudence et les raser définitivement.
Aujourd'hui, tout le monde pense à ce que nous allons faire et laisser aux générations futures, une planète plate et envahie par l'industrie du mobilier. Les générations futures pourront profiter de la joie de monter un meuble Ikea, de l'émerveillement d'avoir une vue magnifique sur les champs de souches mortes de la forêt amazonienne. Il pourra aussi profiter de grands espaces vides et grisâtres.
L'être humain veut tout immédiatement, il ne sait pas attendre. Pour faire pousser des fruits et légumes, il utilise la manière la plus simple et la plus rapide, en utilisant divers produits toxiques et en construisant des kilomètres de jardins. Au final, cela facilite la déforestation près de chez nous et la mutation de plusieurs espèces de plantes.
Et ensuite, hein, Eléa ? Et ensuite, que se passera-t-il ? On inventera des plantations instantanées à base de déchets nucléaires ? On fera pousser des fruits transgéniques dans notre salon ? Vous ne pensez pas que l'homme devrait parfois retourner en arrière ?
Tenez, les dinosaures sont restés sur Terre 150 millions d'années et leur disparition fut accidentelle. L'homme est sur Terre depuis 200 000 ans et détruit lui-même ses chances de vivre, de survie.
Ça constate bien que l'homme est 750 fois plus con qu'un dinosaure.
Parlez pour vous, les hommes, pas nous les femmes. Bref, merci.
Merci de nous avoir accueillis.
Eh bien, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai adoré, ils m'ont bien fait rire. Maintenant, nous allons accueillir Ellie et Fanny. Fanny sont maintenant avec nous.
Bonjour.
Bonjour. Donc, Ellie est une grande amoureuse de la nature et de la nourriture, et Fanny préfère bidouiller ses stylos plutôt que d'écouter en cours, c'est ça ?
Oui.
Elles viennent nous parler d'un sujet bien à elle, la pollution de l'eau, plus précisément la pollution des océans. Pourquoi donc, mademoiselle ?
Tout simplement parce que l'eau, on n'en a pas indéfiniment. C'est une ressource précieuse et épuisable, et qu'il est donc urgent de réagir lorsqu'on la met en danger.
D'après le site Planétoscope, chaque année, de 6,5 à 8 millions de tonnes de déchets plastiques sont déversés dans les océans et environ 63% des objets sont des déchets solides tombés ou jetés depuis les bateaux.
Imaginez-vous, 63% des objets sont des déchets solides tombés ou jetés depuis les bateaux, mais qui est assez débile pour les jeter ?
Il existe plusieurs causes dans la pollution des océans, comme les incendies ou les explosions des infrastructures, les échouements et collisions de bateaux ou encore l'abandon de filets de pêche.
Des filets de pêche ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de filets de pêche ?
Bah oui, Eléa, certains finissent au fond de l'océan, comme dans le film Nemo. Vers la fin, on peut voir Nemo dans un filet et celui-ci finit au fond de l'eau. C'est complètement pitoyable.
La collision de bateaux est également catastrophique sur tout l'écosystème des océans. Cela engendre de monstrueuses marées noires.
Comme le film Deep Water, qui est inspiré d'un fait réel.
D'accord. Pouvez-vous nous en dire plus sur les marées noires ?
Oui, bien sûr. Une marée noire est un déversement brutal de pétrole dans une mer ou un océan. Il faut 6 à 7 ans pour que les effets disparaissent. Par exemple, la plateforme pétrolière Deepwater Horizon a entraîné l'une des plus grandes marées noires au monde. D'après le site Regard sur le monde, plus de 835 500 tonnes de pétrole ont été déversées dans le monde, dans le golfe du Mexique. Le 20 avril 2010, il faut réagir.
Nos technologies évoluent assez rapidement, mais nous ne trouvons toujours pas le moyen pour éviter les marées noires créées par nous, les hommes. Mais surtout pour les nettoyer.
À votre avis, qu'est-ce qu'entraînent les déchets jetés dans les océans ? Pensez-vous aux conséquences ?
Les courants marins les amènent tous au même endroit, ce qui forme un rassemblement de déchets, surnommé la Grande Plaque de déchets du Pacifique ou 7e continent. Il se situe dans le nord-est de l'océan Pacifique, entre la Californie et Hawaï. Celui-ci est 6 fois plus grand que la France et fait plus de 30 mètres de profondeur. Ce n'est pas le seul à ce jour, pas moins de 5 continents de plastique sont dispersés dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien. Ces informations nous proviennent du site Euronews.
Mais ce n'est pas la seule conséquence. Cela place certaines espèces en voie de disparition, plus de 267 espèces marines.
Ce n'est pas humain de ne rien faire. Être citoyen, c'est aussi avoir le devoir de protéger l'eau pour nous ou les générations à venir. L'eau ne se fabrique pas.
N'oubliez pas, l'eau est la richesse principale de notre planète.
Vous savez, Eléa, la Terre est notre maison. Si vous ne prenez pas soin d'elle, elle ne peut pas prendre soin de vous.
La nature n'a pas besoin de l'homme. L'homme a besoin de la nature.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation.
Merci.
Merci.
Eh bien, vous l'aurez compris, il faut être gentil avec Mère Nature. Ensuite, c'est Julie qu'on accueille. Elle ne sait pas distinguer sa droite de sa gauche et elle adore le scotch. Mais elle sait rester sérieuse quand il s'agit d'un sujet qui lui tient à cœur. C'est Julie qui va vous parler de sexisme.
Chères auditrices, chers auditeurs, je suis ici aujourd'hui pour vous parler du sexisme. Alors, le sexisme, c'est par définition une attitude discriminatoire qui est fondée sur le sexe. Donc à partir de maintenant, je vais vous parler comme si j'étais un macho, un homme bien lourd, un gros lourdeau. Eh oui, je suis vraiment désolée, mais oui, un gros lourdeau de base, ça existe vraiment. Voilà un exemple. Ah, les femmes. Les petites femmes, toutes du sexe faible, hein. Tout le monde est bien d'accord, mais qu'est-ce que c'est ? Une petite définition ? Oh, c'est très simple. Le sexe faible, ben c'est tout simplement les femmes. Eh oui, vous avez déjà entendu les femmes se plaindre de gagner environ 20% de moins qu'un homme, pour le même travail en plus, non mais c'est inadmissible. Elles osent se plaindre. Alors qu'une femme...
Nous vous rappelons que nous sommes dans un collège, donc il y a forcément des sonneries qui vont retentir, mais ne vous inquiétez pas, on va reprendre gentiment le cours de cette chronique.
Alors qu'une femme, son rôle, c'est quoi ? Primo, faire le ménage dans le foyer. Deuxio, s'occuper des mômes. Tertio, préparer à bouffer. Alors quelle idée de mettre une femme au travail pour qu'après elle nous parle d'égalité de salaire, qu'elle nous bassine avec ses inégalités ? C'est comme dans le sport, oui, parlons-en. Vous trouvez ça normal qu'une femme puisse jouer au foot, hein ? Et qu'en plus, ce soit retransmis à la télé ? Heureusement pas en prime time, il manquerait plus que ça. Non mais c'est quoi ce bazar, sérieux ? Le foot c'est pour les hommes, les vrais, les forts et virils, comme moi. C'est comme les pubs de parfum ou de voiture. Par exemple, la pub pour le parfum Olympia, la fameuse. Bah ça nous prouve que les femmes existent que par leur corps. La femme, c'est un objet, n'est-ce pas ? Elle a juste été créée pour nous servir, être notre servante à nous, les gros machos. Après vous avoir donné un exemple, j'aimerais vous faire part réellement en tant que femme de ce que je pense de ce sujet. Bah vous voyez, tout ça me révolte, ça m'énerve. Pourquoi une femme serait bonne? On n'est pas un bout de viande, merde. Pas un aliment à consommer. On a des sentiments, nous, hein. Sérieusement, vous nous prenez pour qui? On est comme vous, les hommes. On pense. On est capable de faire des longues études. De jouer au rugby, de conduire un avion de chasse. Et ouais, d'ailleurs, vous seriez même pas nés sans nous. Car nous aussi, on a de l'importance dans la conception de l'enfant. Qui sait qui doit se taper de 13 ans à 55 ans? Des règles tous les mois avec des douleurs souvent insupportables. Et après, on a encore encaissé vos moqueries? Non, mais vous croyez vraiment que l'accouchement est une partie de plaisir? Moi, ça m'énerve, ça meurt de moi, que nous, les filles, on souffre tout le temps, et qu'en plus, on doit supporter vos insultes. Parce que oui, c'est pas marrant de se faire traiter de pute quand on met des jupes. Bref, j'espère que vous avez compris mon message. En tout cas, à notre époque, il me semble qu'il serait temps de passer à autre chose.
Merci beaucoup pour cette chronique, Julie. En tout cas, j'espère qu'elle aura ouvert les yeux à certains d'entre eux, et nous serons toujours solidaires avec toi.
Merci.
Laurine et Mathéo qui sont à mes côtés tout de suite. Elles rêvent de voir le Titanic en sous-marin et elles n'aiment pas les pieds, ce qui est assez étrange parce que c'est une partie de nous quand même. Et elle est venue avec Mathéo, un petit maniaque qui ne supporte pas quand un trait n'a pas été bien effacé, hein, c'est ça?
Oui.
Bon, vous êtes venue pour nous parler du racisme?
Oui.
Ok, c'est parti.
Alors déjà, le racisme a commencé il y a très longtemps. Les Grecs anciens, par exemple, se considéraient comme les seuls hommes libres et ils réduisaient en esclavage les populations étrangères.
Savez-vous, Eléa, qu'au XVIe siècle, lors de la conquête du Nouveau Monde, les Espagnols comparaient les peuples indiens à des animaux car ils ne portaient pas d'habits. Et puis le racisme, c'est aussi la traite des Noirs et la ségrégation raciale aux États-Unis.
En France, au XVIIIe siècle, certains scientifiques ont cherché à classer les gens par rapport à leur couleur de peau, alors qu'on pouvait très bien les classer par rapport à leur couleur de cheveux ou leur taille.
Et elle vient d'où cette couleur de peau?
La couleur de peau s'explique avec l'existence des mélanines, c'est des pigmentations dans la peau qui, selon l'effet du soleil, sont plus ou moins foncées. C'est pour ça que les gens en Afrique ont la peau plus noire.
On ne comprend pas pourquoi il y a encore des personnes qui ne veulent pas des gens de couleur. D'après le site Le Monde, il y a 22% des Français anti-noirs. Pourtant, la couleur de peau ne reflète ni notre caractère, ni notre personnalité. Pas vrai, Mathéo?
Oui, c'est vrai, je trouve ça pas normal qu'on associe un noir à un trieur de poubelles, par exemple. Pourquoi trouver que les Noirs sont moins forts que les Blancs? Par exemple, le film Chocolat qui parle d'un Noir au cirque et qui se fait maltraiter par les Blancs et qui est considéré comme un singe. Par exemple, dans le film, il y a une scène où il présente l'affiche du cirque, on voit le Noir représenté en singe.
On sait que le racisme, c'est surtout avoir peur de l'autre, de ce qui est différent de nous. On se sent supérieur à l'autre qu'on méprise parce qu'il n'est pas comme nous.
Le racisme peut aussi être une réaction face à l'insécurité que l'on peut ressentir. Il faut une explication à ce qui va mal. Et c'est facile de se prendre aux autres, les étrangers, les réfugiés, les noirs, ou n'importe qui serait responsable de tous les problèmes et de toutes les souffrances.
On a vu que le racisme se retrouvait partout dans le monde. Ce n'est pas une raison pour l'accepter. On ne peut pas se laisser diriger par la peur, et on a le devoir de s'ouvrir et de lutter contre ces préjugés, en tout cas si on n'est pas trop stupide.
Tout ça pour dire qu'on est tous pareils et qu'il y a autant de mauvaises que de bonnes personnes chez les Blancs que chez les Noirs.
Merci beaucoup. En tout cas, moi, je partage votre point de vue. Hein, et puis, je n'étais pas au courant pour la mélanine. Donc voilà, c'est gentil. Merci.
Merci à vous.
Tout de suite, c'est Lucie qu'on accueille. Aussi maladroite que passionnée du Japon, elle est venue nous présenter sa chronique. Aujourd'hui, Lucie nous parle de harcèlement, et ce n'est pas un hasard, elle vous dira pourquoi.
Bonjour, Eléa.
Bonjour.
Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler du harcèlement scolaire. C'est un sujet dont personne ne parle, mais qui touche beaucoup d'élèves, et beaucoup plus qu'on le pense. D'après les sources de e-enfance et Appel, on compte environ 14% d'élèves de primaire victimes de harcèlement, contre 10% au collège. Un adolescent sur cinq connaît également la cyberviolence. Je pourrais vous citer un grand nombre de violences subies par les jeunes, mais je vais me contenter de vous raconter une seule histoire, la mienne. Vous pouvez dire, ce n'est rien, ce n'est qu'un jeu pour eux. Ils s'amusent et ils finiront par se lasser de me donner des claques ou de cacher mes affaires de sport, de mettre mon sac à des cours à la poubelle sous les vieux chewing-gums. Oui, ça va passer. Ou pas. Le temps passe, rien ne se calme, tout empire, et c'est là qu'on se rend compte que pour eux, c'est plus qu'un jeu entre amis. C'est devenu leur addiction. Dès que vous entrez dans la cour, quand les profs tournent le dos, partout, tout le temps. Vous aurez beau essayer de vous plaindre, personne ne réagira de la bonne manière. Certes, il y aura des avertissements, mais presque jamais de sanctions adaptées. Personne ne vous croit et on vous dit que vous exagérez, que ce n'est pas exactement la réalité, que cela ne doit pas être aussi horrible que vous le présentez. Vous imaginez ? 2 ans de survie au milieu de tout le monde. Les insultes ne leur suffisent plus. Alors les coups de compas, les cheveux coupés, ils augmentent le niveau et commencent à vous envoyer contre les casiers. Puis vous vous taisez, vous vivez et vous survivez. Jusqu'au moment où quelqu'un comprend enfin et vous libère. Les séquelles sont là, mentales, parfois physiques. Et certains n'y survivent pas. Ils choisissent de disparaître pour de bon, de partir. Moi, j'ai choisi de rester, de tout recommencer. Ailleurs, dans une autre ville. C'est beaucoup mieux ainsi.
Ça va ? Et puis, comment vous faites pour tourner la page après une histoire si tragique ?
Pour aider à oublier ce qui s'est passé, j'utilise l'art, comme la danse, le piano, le dessin ou l'écriture. Ce sont les différentes façons de s'exprimer qui aident à tourner la page et à se détendre tout en s'amusant.
D'accord. Et puis, si un jour, je ne vous le souhaite pas, mais si un jour au lycée, par exemple l'année prochaine, il y aurait quelqu'un qui aurait dans l'idée de vous malmener encore une fois ?
Dans ce cas-là, je ferai tout mon possible pour couper tous les liens avec cette personne, puis j'irai vers mes amis, les vrais amis, pour qu'ils m'aident, je leur dirai tout et je leur demanderai de m'aider. Je dois aussi vous parler d'une autre forme de harcèlement, aussi violente mentalement que physiquement, le cyberharcèlement. Oui, vous pouvez réagir, dire que c'est tout aussi horrible. Depuis quelque temps, les bourreaux s'attaquent aux victimes via le net et les réseaux sociaux. Avez-vous déjà liké une image ou un texte qui critique ou se moque de quelqu'un ?
Moi, jamais.
Parce que si c'est le cas, vous faites partie des bourreaux ou des témoins qui ne disent rien, qui ne réagissent pas. On donne souvent cette phrase « liker, c'est harceler ». Et pourtant, très peu de projets sont mis en place contre le harcèlement. Le résultat de cette guerre entre les bourreaux et les victimes est souvent assez désastreux. On compte en moyenne 3 à 4 suicides par an causés par le harcèlement. C'est déjà trop. Alors je vous le demande, si vous êtes victime ou témoin, ne gardez rien pour vous. N'ayez jamais peur de le crier haut et fort et d'aller vous plaindre à un adulte de confiance, aux profs, aux infirmiers, aux parents ou quelqu'un d'autre. Vous devez réagir face à ces situations, car ne rien dire, c'est être complice de ces actes. Moi, au risque de vous paraître un peu bête, je peux vous dire que quand je passe la porte d'une école et que je vois gravé dans la pierre la devise « Liberté, égalité, fraternité », j'y crois. J'entre dans l'établissement tranquillement, je pourrais même dire sereinement, avec mon sac à dos et toutes mes envies d'apprendre. Liberté, égalité, fraternité. Ces 3 petits mots si importants pour la France qui sont gravés et affichés dans les établissements scolaires ne sont pas pour autant respectés. Liberté. La liberté de quoi ? Si nous sommes harcelés, c'est parce que personne ne respecte nos choix et nos idées. Et l'égalité. Il n'y a aucune égalité qui tienne, puisque nous sommes persécutés pour nos différences. Et la fraternité. Mais bien sûr, il n'y a aucune fraternité présente, puisque on est seul face au monde, face à la réalité, sans aucune main tendue pour relever au moindre obstacle. Tout ça pour vous dire que le harcèlement, ça existe. Il est présent et je n'ai aucun moyen pour empêcher ça. La seule chose que je puisse vous conseiller, c'est d'être fort. Mais il serait bien en tant que citoyen que les grands, les grandes personnes qui arpentent les couloirs des écoles s'offrent le luxe de bien observer chaque élève, juste histoire de savoir si tout va bien.
Merci, c'était super touchant, je suis un peu toute chamboulée là. Merci beaucoup, en tout cas on va retenir de cette histoire qu'on peut se relever après tout ça. Merci.
De rien.
Eh bien, maintenant, j'accueille Cassie et Jeanne. Jeanne est une fille impulsive, car à peine ses chaussettes mouillées, elle est déjà énervée et elle pratique un sport assez particulier, puisque vous faites de la natation synchronisée, c'est bien ça ?
Oui.
D'accord. Depuis combien de temps ?
Seulement un an.
D'accord. Et Cassie est une fille joyeuse qui aime l'odeur des copeaux de bois, et elle aime beaucoup les chevaux. Vous saviez que j'aimais bien les chevaux, moi aussi ?
Ah bon ?
Oui. Vous avez quel niveau à cheval ?
Le galop 5, et vous ?
Bah, moi, j'ai le galop 4. Bon, elles sont pas là pour venir vous parler de chevaux, hein, d'accord ? Elles viennent pour nous parler des SDF, c'est bien ça ?
Effectivement, Iléa. Trouvez-vous ça normal qu'il y ait plus de 3 millions de SDF en France ? Mais au fait, savez-vous ce qu'est un SDF ?
Non.
Ces lettres signifient sans domicile fixe.
Commençons par le début. Il y a quelques années, les SDF étaient appelés mendiants, clochards ou même plus vulgairement cledeux. Et de nos jours, on les nomme les « sans domicile fixe », un nom qui choque personne, car c'est comme si en leur donnant un nom neutre, on effaçait le problème. Mais pourquoi chercher un nom particulier à ces personnes, alors que ce sont juste des êtres humains comme nous ? Comment voulez-vous convaincre la population de la gravité des choses, alors que même le dictionnaire Larousse les définit comme « vagabonds » ? Comme si être dans la rue était un choix. Ces personnes sont totalement à l'écart de la vie de la démocratie.
Et vous, les éditeurs, vous sentez-vous concernés par ces sans-abri ?
C'est bien la question que chaque citoyen devrait se poser, puisque, de nos jours, nous sommes capables de marcher dans la rue sans prêter attention à ces pauvres gens. Mais vous qui écoutez, faites plus que ça, réagissez. Sortez de chez vous et mettez-vous juste 5 minutes à leur place. Et ensuite, activez-vous.
Il est temps de bouger les choses. Bien sûr, il existe des associations comme Action Froid ou le Canal des Enfants. Et puis, des centres d'hébergement, surtout dans les grandes villes. Mais ce n'est pas suffisant, car la société ne suit pas. On vit dans un pays avec des valeurs et des principes, d'égalité et de fraternité, mais on laisse mourir des êtres humains de faim et de froid. C'est cela la citoyenneté pour vous ? Encore l'année dernière, 323 personnes sont mortes dans la rue en France.
Nous sommes des citoyens, certes, mais nous sommes des citoyens parfois égoïstes qui sont capables de laisser mourir des personnes. On nous a donné un monde, regardez ce qu'on en a fait. Ouvrez votre esprit sur le monde et ne vous contentez pas seulement de votre propre petit bonheur.
Certaines personnes diront, c'est de leur faute à ces SDF, qu'ils l'ont mérité ou encore même que c'est eux qui ne veulent pas être aidés.
Mais réfléchissez, c'est ridicule de croire encore à ça de nos jours. La plupart des SDF avaient un métier et à la suite d'un divorce, un licenciement ou encore d'un décès, ils se retrouvent assis sur le sol à demander à des personnes indifférentes une ou deux pauvres pièces. Pensez-vous qu'il est si simple d'être abaissé à chaque pièce que l'on reçoit ? Effectivement, quelques-uns refusent de l'aide, mais comprenez qu'il est parfois difficile d'accepter le fait qu'on ne peut pas s'en sortir seul, ou encore même d'abandonner un animal, le seul compagnon qu'ils ont parfois.
Et l'avenir dans tout cela, y avez-vous pensé ? Vous croyez être invincible, mais peut-être qu'un jour, la rue va devoir vous accepter. Et donc, c'est là que je vous pose la question, êtes-vous des humains ? Est-il possible d'ignorer une personne au point de ne plus être choqué à sa vue ?
Et puis, vous allez donc nous faire part d'un témoignage assez touchant, c'est bien ça ?
Tout à fait. Pour vous faire réagir, nous avons trouvé un témoignage qui parle des conditions de vie très difficiles d'un SDF, Anne Lorient. Elle a 48 ans, deux fils de 12 et 15 ans, elle a passé 17 ans dans la rue.
Voici ce que dit cette femme. On se bat, on essaye de garder le moral. Toute la journée, on cherche des solutions pour manger, pour trouver un coin chaud où dormir. Actuellement, voyez, c'est l'hiver, il y a des SDF partout. Il faut se battre, on a un instinct de survie qui se met en route. On va dans un supermarché pour faire la manche. On se lave dans les squares à 6h du matin, dès qu'ils ouvrent et avant que les enfants viennent jouer. Il vaut mieux éviter les douches municipales qui sont pleines de microbes. J'ai accouché de mon premier enfant dans la rue. Il a passé ses 3 premières années collé à moi. J'avais très peur qu'on me l'enlève et qu'on le place. Je me suis battue pour le garder.
Ah oui, donc pour vous, c'est naturel de laisser des enfants dans la rue. Tout comme c'est naturel de suivre cette société comme des moutons passifs et sans avis. Cette société stupide remplie d'êtres stupides. À qui la faute ? À nous tous, à vous, à nous. Alors si on agissait, seulement un regard moins méprisant pourrait tout changer.
Eh bien, merci beaucoup.
Ouais.
Et n'oubliez pas, réagir, c'est déjà agir.
Au revoir.
Ciao. C'est Elisa qui est avec nous. Elle déteste quand les gens sont lents, et notamment en course, ça lui donne envie de bourrer dans les caddies des autres. Elle est venue nous parler d'un sujet qui lui tient à cœur, et à moi aussi d'ailleurs, puisqu'elle est venue de nous parler, elle est venue pour nous parler, excusez-moi, de l'homophobie, c'est bien ça ?
Oui, bien sûr. Bonjour Eléa.
Bonjour.
Et oui, les personnes homosexuelles existent, tout comme vous pouvez entendre ma voix, tout comme vous respirez, tout comme la Terre est ronde et tourne autour du Soleil. Tout comme il y a 60 minutes dans une heure et 60 secondes dans une minute. Alors pourquoi, en 2017, deux hommes ou deux femmes qui s'aiment, ça choque toujours autant ? Mais laissez-moi vous dire que dans l'Antiquité, deux hommes qui s'aiment n'étaient pas persécutés. Alors pourquoi on n'accepte pas ça ? Ben, c'est très simple.
Contre, hein, je n'ai rien contre les homosexuels, hein, on les aime et c'est contre nature. Hein.
Bah ouais, c'est contre nature, hein.
C'est comme se brosser les dents et manger un truc juste après. C'est contre nature. Hein. C'est comme le mariage gay. Bah ouais, le mariage, ce n'est pas de l'amour. C'est un bien pour la société. Ouais, ben, autant se paxer. Donc moi, je dis non au mariage gay. Mais attention, on n'est pas homophobe. On veut juste pas qu'ils aient les mêmes droits que nous. Sérieusement, deux personnes homosexuelles ne devraient pas avoir d'enfants. C'est mal pour l'éducation, c'est humiliant. C'est contre nature, en fait. Avoir deux parents qui s'aiment entre eux et qui aiment aussi leur enfant, c'est contre nature, peut-être. Reste à savoir si on préfère le bonheur des gens ou une bonne éducation pour tous. Comme un coiffeur ou un fleuriste peut être heureux et aimer une femme, bah ouais. Alors arrêtons les amalgames. Si les gens ont envie de participer à la Gay Pride, qu'ils veulent s'embrasser en public ou qu'ils veulent avoir un enfant, ou qu'ils veulent se marier car ils s'aiment, laissez-les. Ça vous dérange vraiment qu'ils vivent leur vie paisiblement ? Arrêtez de les juger. Arrêtez les propos irrespectueux et blessants. Tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit. Ils ont le droit à la liberté d'expression, le droit de réunion pacifique et le droit d'être aimés et respectés. Alors une question me vient à l'esprit. Ça vous rend gay tout ça ?
Merci d'y avoir mis tant d'attention et puis on espère que votre message sera entendu. Accueille maintenant Néo et Loïc. Nos deux passionnés de jeux vidéo s'intéressent à l'immigration sous forme de micro-trottoir.
Nous nous demandions si l'immigration était une bonne ou une mauvaise chose, car on en entend beaucoup parler à la radio comme à la télé. Mais la question reste sans réponse. Et pour nous aider à comprendre, nous nous sommes promenés un micro à la main. On y est allé franchement, et nous avons interrogé le personnel du collège, en lui demandant s'il pensait que l'immigration apportait quelque chose à la France, ou au contraire, si elles étaient un poids. Voici nos réponses.
Pour moi, l'immigration est un poids, car il y a beaucoup de... il faut mettre beaucoup de choses en place pour pouvoir accueillir les personnes.
Selon notre interlocutrice, l'immigration est un poids, car il faut préparer des installations pour les accueillir. D'un côté, les moyens sont difficiles à mettre en place, mais dans ce cas-là, comment l'Allemagne, selon l'étude de l'OCDE, peut accueillir 150 000 migrants de plus que la France ? Autrement dit, 400 000 migrants pour l'Allemagne et environ 250 000 pour la France. Nous allons maintenant écouter extrait 2.
Alors moi, je pense que l'immigration apporte quelque chose à la France parce que ça permet d'apporter du dynamisme et de la jeunesse. Et puis que plusieurs économistes montrent que finalement, plus il y a de population, plus il y a d'emplois dans une économie de service puisque les gens qui viennent sont des consommateurs. Et donc, ça permet de créer des emplois. Et à mon avis, c'est plutôt quelque chose de positif, d'autant que ça apporte une certaine diversité.
D'après elle, l'immigration est un plus car cela nous apporte du dynamisme et de la jeunesse. Et puis cela crée des emplois car chaque citoyen devient un consommateur et s'il y a plus de consommateurs, il y a plus d'emplois. Cela nous permet d'introduire l'extrait suivant.
D'une part, alors moi je suis un fervent défenseur de l'immigration puisque je suis un petit-fils de population immigrée, espagnole. Mais d'un point de vue culturel, d'un point de vue linguistique, en termes de mixité, c'est sûr et certain que l'immigration... c'est vraiment un plus, hein, d'accord ? Aujourd'hui, la France, c'est un carrefour culturel et linguistique, et ce qui fait la richesse de la France, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de cultures représentées, plusieurs croyances, plusieurs modes de pensée, plusieurs langues. Ça, c'est vraiment le point fort. Après, le problème de l'immigration, c'est les moyens mis en place pour accueillir les populations. Parfois, il n'y a pas assez de moyens mis en place, parfois, il y a des flux migratoires qui arrivent en trop grande masse... et du coup, on n'a pas forcément les moyens. Là, on a pu voir le même problème en Allemagne il n'y a pas longtemps. Il y a aussi un deuxième souci aujourd'hui, c'est le problème du terrorisme qui passe à travers l'immigration. Alors heureusement, ce n'est pas représentatif de tous les immigrés, mais c'est le genre de problème qui peuvent arriver. Et puis, il y a un dernier problème, c'est les raisons profondes en fait, de l'immigration. C'est-à-dire qu'en réalité, accueillir des populations, c'est normal quand il s'agit par exemple de réfugiés politiques. Mais après, le vrai problème profond, c'est qu'ils fuient leur pays. S'ils le fuient, c'est qu'il y a de la misère au quotidien, il y a la guerre, il y a de la souffrance, il y a de la répression. Et en fait, le problème, c'est les raisons profondes de l'immigration, c'est ça qu'il faudrait pouvoir solutionner. Et ça, c'est le vrai, vrai problème de la question de l'immigration.
Dans cet extrait, les grandes causes de l'immigration sont citées. De plus en plus d'immigrés occupent des métiers que personne ne veut exercer, ce qui permet de maintenir à niveau l'économie française. Passons à l'extrait 4.
Alors, pour moi, l'immigration est une vraie chance pour la France. Depuis tout temps, la France a accueilli de nombreuses populations de divers horizons. L'Italie, le Portugal, la Pologne, le Maroc, l'Afrique, avec un but de soutenir l'économie industrielle. Donc là, c'était vraiment une chance. Aujourd'hui, elle est composée de diverses cultures, donc un atout aussi culturel. Donc c'est une chance.
Là, on apprend que l'immigration soutient l'économie industrielle grâce aux emplois qu'elle crée. Mais une réponse nous a interpellés. La voici.
Je pense plus que c'est un poids parce qu'en fait, ils volent le travail aux Français.
Voici l'exemple d'une personne qui se laisse facilement manipuler par des partis politiques extrémistes, mais aussi par les médias qui diffusent de fausses idées. Plusieurs sites internet, comme par exemple Le Monde, démontrent clairement que nous avons besoin des immigrés en termes de culture et d'économie.
D'accord. Et si vous étiez des hommes politiques, que diriez-vous aux citoyens ?
Pour ma part, je dirais au peuple que l'immigration est un gros plus, mais il ne faut pas en abuser, car les moyens à mettre en place sont de plus en plus compliqués.
Alors moi, je pense que l'immigration est un bon point pour la France, au niveau économique comme culturel, et que ça apporte aussi une certaine diversité.
Eh bien, merci.
De rien, c'était un plaisir.
Merci pour moi aussi, au revoir. Eh bien, voilà, c'était un micro-trottoir très croustillant. Eh bien, merci, c'était Marion, une passionnée de Triton, qui vient de nous interpréter « S'il suffisait d'aimer » de Jean-Jacques Goldman. Ça fait du bien une petite pause musicale, non ?
Oui.
Franck est à mes côtés. On va reprendre tranquillement le cours de nos chroniques avec Franck et il n'aime pas les endives et regarde Énergie tous les soirs. Il va nous parler d'un sujet d'incompréhension, la radicalisation.
Oui, bonjour Léa. Aujourd'hui, je vais parler jeunesse et radicalisation, un sujet d'actualité, n'est-ce pas ?
Bien sûr. Alors, donc d'où démarre cette radicalisation ?
C'est dans les prisons et via les réseaux sociaux que les jeunes rencontrent des personnes soi-disant ordinaires, mais qui en fait sont des personnes déjà radicalisées. Au fil du temps, le jeune, à force de fréquenter la personne radicalisée, va être influencé et du coup va être pris dans l'engrenage du terrorisme. Vous savez, Léa, comment les jeunes se radicalisent ?
Non, je n'ai aucune idée. Ce que tu vas nous expliquer ?
C'est très facile. Bien souvent, les jeunes sont fragiles et il est très simple, avec de belles paroles, de les conduire vers des idées terroristes. Selon le gouvernement français, les jeunes se radicalisent pour différentes raisons. Tout d'abord, pour contester, voire refuser l'ordre établi dans leur pays ou pour s'opposer à leurs parents. D'après une interview publiée sur le magazine Okapi, le jeune voit peut-être le meurtre comme un moyen nécessaire pour défendre une juste cause. Quelle juste cause ? C'est comme jouer au juste prix, c'est pas sûr s'il gagne à tous les coups. Alors que c'est une atrocité à laquelle toutes les religions devraient se refuser. Mais moi, je ne le ferai pas. Combien, selon vous, y a-t-il de radicalisés ?
J'en ai aucune idée, dites-moi.
Selon le quotidien Le Monde, sur 3100 personnes radicalisées, 24% seraient radicalisés. Mais 9% ont déjà rejoint la Syrie. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que des jeunes bien éduqués et bien intégrés dans la société se radicalisent aussi facilement. Savez-vous s'il existe différents profils de terroristes ?
Non, je sais rien.
Les jeunes peuvent être dans différents profils de terroristes. Par exemple, il y a les radicalisés identitaires. Le terme désigne des individus en rupture avec la société française et les valeurs occidentales. Ces personnes se sentent exclues ou humiliées et font de leur identité un refuge autant qu'une solution à leurs problèmes. Leur radicalisation est lente et la dimension religieuse de celle-ci n'est que partielle. Et les radicalisés politico-religieux, pour ces individus, l'idée d'une guerre sainte est un projet politique d'importance centrale. Leur identité est religieuse avant d'être nationale ou ethnique. Pour eux, la charia doit s'imposer au monde. Leur radicalisation est le résultat d'un long processus d'idéologisation entretenu par des djihadistes formés aux doctrines religieuses, à leur interprétation et à leur courant.
D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la charia ?
La charia est une loi musulmane que les musulmans appellent la loi de Dieu. Ce sont des juges musulmans qui sont chargés de tirer les règles précises découlant de la charia. Et Léa, savez-vous comment les jeunes se radicalisent en prison ?
Eh bien, je n'ai pas la moindre idée.
En prison, les jeunes, pour survivre, doivent se rapprocher d'un camp. Et le camp en question peut être un camp de terroristes. Et du coup, les jeunes peuvent être influencés et se radicalisent. En conclusion, les jeunes se radicalisent de différentes façons. Il existe des différents profils et il serait trop simple de donner une recette pour éliminer ce fléau. Mais il est important de retenir que tout peut aller très vite et que nul n'est épargné. L'écoute et le dialogue restent les méthodes les plus sûres pour désamorcer la naissance d'idées radicales. Et les acteurs principaux restent de toute évidence les parents, les enseignants, les éducateurs, les animateurs et leur réseau de copains.
Eh bien, merci beaucoup. J'ai beaucoup appris durant votre chronique.
Merci à vous de m'avoir accueilli.
Eh bien, de rien. C'est Louve et Tom qui sont à mes côtés tout de suite. Suite aux premiers attentats survenus en France le 7 janvier 2015, les Français ont commencé à craindre les terroristes et à redouter une nouvelle attaque de Daesh. Ensuite, une vague d'amalgame et un surplus de racisme s'est formée en France. Il y a une réelle nuance entre l'islam et des musulmans, et cette vision extrémiste des terroristes, et c'est ce que vous allez nous expliquer maintenant.
Tout d'abord, bonjour Eléa.
Bonjour.
Comme vous venez de le dire, il ne faut pas mélanger un musulman et un terroriste.
Un musulman est une personne qui suit le Coran.
À la base, un terroriste est bien un musulman, mais il appartient à un mouvement radical, c'est-à-dire qu'il n'a rien compris au Coran.
Ils commettent des attentats au nom d'Allah dans le but d'inspirer la terreur.
Ouais, enfin, pour moi, les terroristes, c'est surtout des grands malades.
Oui, selon le journal Le Figaro, il y avait en février 2016 environ 8250 personnes radicalisées en France.
Mais c'est énorme !
Oui, c'est même beaucoup trop.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le Coran ?
Oui, bien sûr. Dans le Coran, il y a 5 piliers.
Le premier est la profession de foi ou shahada, qui consiste à croire en Allah et son prophète Mahomet.
Le second est les 5 prières journalières ou salat. Les musulmans doivent prier en direction de la Mecque.
Le troisième est le pèlerinage à la Mecque à faire une fois dans sa vie si on a les moyens.
Après, il y a l'aumône légale ou zakat, qui consiste à donner de l'argent aux plus pauvres.
Et enfin, le saoum ou ramadan, qui consiste à endurer la faim et la soif que connaissent les pauvres pendant la journée. Ils se nourrissent que la nuit, quand le soleil n'est plus présent.
Mais comme dans toutes les religions, il y a des grands principes comme la discipline, la persévérance ou encore la sincérité.
Mais surtout la solidarité et l'entraide.
Avec des principes comme ça, vous croyez vraiment que c'est le Coran qui pousse les gens au terrorisme ?
Bah non, je crois pas.
Et pourtant, pour les terroristes, c'est bien la mauvaise interprétation du Coran qui entraîne leur radicalisation.
Les terroristes sont ultra-violents et très fragiles psychologiquement, donc ils sont très faciles à influencer. Persuadés d'agir pour la bonne cause, ils n'hésitent pas à sacrifier leur vie pour devenir kamikazes.
Pour autant, les musulmans ne cautionnent pas ces actes, comme tout le monde d'ailleurs. Ils sont terrifiés, écœurés et ils n'acceptent pas que les terroristes bafouent leur religion.
Par exemple, pour se révolter, le 10 septembre 2014, une campagne a été lancée sur les réseaux sociaux après l'assassinat de l'humanitaire David Haynes par les terroristes avec le message « Not in my name ».
Ce qui signifie « Ne tuez pas d'innocents en mon nom ». Ces mots s'adressent aux terroristes qui commettent des crimes horribles au nom d'Allah.
Les musulmans du monde entier manifestent contre l'État islamique qui salit leur religion et contre les amalgames entre islam et extrémisme religieux dont ils sont victimes au quotidien.
D'accord, on a bien compris, Tom, hein, les terroristes sont des extrémistes qui n'ont absolument rien compris à leur religion. Mais est-ce qu'il n'y a que chez les musulmans qui est assez fou ou...
Mais pas du tout. Les catholiques, par exemple, ont connu eux aussi des mouvements radicaux, comme les croisades du 10e au 13e siècle, pour récupérer la Terre Sainte.
Toujours chez les chrétiens, l'Inquisition espagnole au 15e siècle, par exemple, a condamné beaucoup d'hérétiques au bûcher.
Finalement, chaque religion a ses cinglés. Alors, pour conclure... Quel est, pour vous, le message important à faire passer ?
Nous, on pense que faire des amalgames peut détruire des vies.
Les musulmans n'ont rien à voir avec le terrorisme.
C'est une forme de racisme et de non-respect.
Si nous continuons, les conflits ne finiront jamais.
C'est anti-citoyen et on doit se mobiliser pour arrêter ça.
Arrêtons les amalgames.
Maintenant.
Merci beaucoup, c'était très prenant. Vous avez bien fait de nous parler de ce sujet car c'est une chose à ne pas oublier. Maintenant, nous accueillons Pierre et Hugo. Hugo a des goûts particuliers puisqu'il aime les montres en poil de chat. Et Pierre est un fan du Real Madrid, c'est bien ça ?
Oui.
Donc vous êtes attaqué au sujet épineux du tri d'informations dans les médias, c'est bien
oui,
ça ?
Oui, c'est ça. Voyez-vous, ma chère Léa, Pierre et moi, nous avons un petit intérêt. On peut même dire un gros, pour la citoyenneté en général. Et particulièrement pour le droit à l'information. Ce droit qui nous parachute en plein cœur de l'actualité, qu'elle soit locale, nationale ou internationale. Le problème, parce qu'il y a problème, c'est que ceux et celles qui nous délivrent l'information choisissent à notre place et on peut se demander si nous avons vraiment accès à toute l'information.
Nous allons donc vous expliquer comment les médias trouvent leur information.
Eh bien ça m'intéresse.
Les informations viennent des reporters et des agents qui travaillent pour l'AFP ou Agence France Presse, qui sont répartis dans près de 150 pays dans le monde. Les informations sont envoyées aux chaînes d'information comme TF1, France 2 ou encore BFM TV. Ces informations se nomment des dépêches. Ces dépêches peuvent être des courts articles, des photos ou des vidéos de sources.
Les chaînes d'information peuvent recevoir plusieurs milliers de dépêches par jour, qui viennent du monde entier. Ces dépêches sont triées selon plusieurs critères de sélection. On peut les trier par thème. Exemple, on choisit de diffuser une info liée à la politique. Et selon la tendance de la chaîne, ou de la station, si on parle de radio, eh bien on oriente plus à droite ou plus à gauche. Mais on peut aussi les trier selon l'âge du public ciblé. Trier dans le but de faire le plus d'audience possible. Trier selon la loi de proximité. Vous savez ce que c'est la loi de proximité ?
Voilà, on est désolé pour cette sonnerie, mais nous vous rappelons que nous sommes au sein du collège de Moutes. Allez-y, continuez, je vous en prie.
Vous savez ce que c'est la loi de proximité, Léa ?
Non, j'en sais rien.
Selon Wikipédia, en journalisme, la loi de proximité est le principe suivant, lequel les informations ont plus ou moins d'importance suivant leur proximité par rapport au lecteur. Cette proximité est généralement décomposée en quatre axes. Géographique, temporel, affectif et sociétal, socio-professionnel. Pour ce qui est de la proximité géographique, on parle également de mort kilométrique, notamment dans le domaine des faits divers. Les chaînes d'infos régionales vont mettre beaucoup plus d'infos sur ce qui se passe aux alentours qu'à l'extérieur du pays. On peut aussi triées selon le coût de l'information, car les informations peuvent coûter plus cher que d'autres.
Alors, où trouver ce qui nous manque ? Quelles sont les sources complémentaires qui nous permettraient de mieux connaître le monde actuel ?
On peut trouver ce qui nous manque en allant sur certains sites comme Mediapart ou encore 89, qui sont des sites où toutes les dépêches qu'ils reçoivent sont publiées immédiatement.
Alors, les sources supplémentaires qui nous permettraient de mieux connaître le monde actuel sur Internet ? Car il y a de plus en plus de chaînes et de sites qui publient leurs dépêches, qui ne sont pas transmises à la télévision.
Donc, prudence, n'avalez pas tout cru ce qu'ils disent les médias. Prenez le temps de vérifier l'information, d'aller chercher d'autres sources et de vous créer une opinion. C'est vrai, ça prend du temps, c'est moins facile, mais la vérité, ça se mérite.
Eh bien, merci pour cette chronique très enrichissante. À plus tard, j'espère. Nous aussi. Eh bien, je vous ai gardé le meilleur pour la fin puisque Mathéo et Alexis sont à mes côtés. Donc, Mathéo aime le rugby et Alexis adore le foot, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça, oui.
Et puis, j'ai su aussi que vous interprétez très très bien le Vélociraptor, c'est ça ?
Oui, c'est vrai, oui.
Une petite démonstration ?
Non, ça va aller.
Vous êtes sûr ?
Oui, oui.
vous voyez... Non, rien, excusez-moi. C'est moi qui ai complètement... C'est pas grave, ça arrive. Donc, le sujet que vous avez choisi, c'est donc l'accès à Internet, c'est bien ça ?
Oui, exactement. Oui, Internet, c'est un formidable outil qui nous permet de connaître tout le savoir, du monde en un seul clic. Mais cet outil peut aussi devenir un véritable fléau pour les jeunes et nouvelles générations.
En effet, on peut tout trouver sur Internet, mais c'est pas forcément une bonne chose. Par exemple, la pornographie qui s'affiche sur nos écrans sans qu'on ait rien demandé. En effet, on remarque qu'elle est de plus en plus facilement présente sur le web.
on vous demande pardon pour ce petit réglage. Allez-y, continuez.
Elle touche de plus en plus tôt les jeunes et de plus en plus de personnes. D'après le site d'information Numérama, les contenus pornographiques occuperaient près de 37% du total des pages web et environ 100 millions de visites par jour.
Il faut aussi faire attention à la gestion de l'info sur Internet, car il y a de plus en plus de fakes. Et Léa, savez-vous ce que c'est qu'un fake ?
Non, mais je suppose que vous allez nous le dire.
Exactement. Un fake est une information sur un site ou une pub qui a pour but d'arnaquer ou de désinformer. Pour les combattre, il faut donc développer son propre esprit critique et se méfier de l'info qui nous est livrée.
Merci pour ces précisions. Et maintenant, on va laisser place à Marion qui va nous parler traçabilité. Bonjour.
Eh bien, Marion, donc, c'est vous qui nous avez joué le petit morceau de violon juste avant. Donc, allez-y.
Bonjour Eléa, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est décidé, je vous ai concocté une petite chronique sur le pistage d'Internet pour compléter la vôtre, Mathéo et Alexis. Ce thème ne vous parle pas. Toi non plus, Eléa ?
Non, pas du tout.
Tout à fait. Alors que nous passons en moyenne une trentaine d'heures sur le web par mois, vous êtes-vous déjà demandé si vous étiez les seuls à avoir connaissance de vos recherches ou de votre historique ? Eh bien, la réponse est non. En vérité, les réseaux sociaux et les moteurs de recherche nous pistent sans arrêt. Ils savent un nombre de choses affolantes sur nous. Tu as un ordinateur chez toi, Eléa ?
Oui.
Vous aussi, Alexis et Mathéo ?
Ah oui, oui.
Oui, oui.
Alors écoutez bien ce que je vais dire. Il faut d'abord savoir que nous laissons des traces sur Internet à chaque fois que nous nous connectons. Dès le moment où nous effectuons la moindre recherche, Internet apprend une information, aussi petite soit-elle, sur nous. Pour être encore plus précis, ce n'est pas vraiment Internet qui nous suit, mais plutôt les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Mais aussi les moteurs de recherche tels que Google. Je suppose que vous posez tous la question, mais pourquoi font-ils cela ? Eh bien, la réponse est simple. Pour de l'argent. En effet, les moteurs de recherche, par exemple, sont payés par de grandes entreprises pour obtenir des informations sur les personnes qu'ils souhaitent embaucher par la suite. Les grandes marques en profitent aussi pour nous faire de la publicité personnalisée. C'est-à-dire qu'en fonction de nos recherches, nous recevons des publicités sur le site que nous venons de quitter. Tu as déjà acheté des chaussures sur Internet, Eléa ?
Ah oui, oui, plein.
Alors tu dois savoir de quoi je vais parler. Par exemple, vous cherchez une paire de chaussures sur Internet. Vous visitez alors plusieurs sites, mais sans acheter. Eh bien, lorsque vous ouvrirez votre boîte mail tout à l'heure, vous pourrez apercevoir en haut à gauche de votre écran les chaussures qui vous ont le plus plu. À titre indicatif, selon le magazine Phosphore, le marché de la pub sur Internet atteint près de 100 milliards d'euros par an. Mais les sites commerciaux se servent aussi de ces infos pour évaluer nos moyens financiers. Des études ont par exemple démontré que l'usage d'un ordinateur dernier cri provoque une hausse des tarifs des offres de voyage.
D'accord, mais est-ce que vous savez quelles informations on récolte sur nous ?
Oh, il y en a plein, vous savez. Les moteurs de recherche savent beaucoup de choses sur nous qui peuvent être effrayantes. Par exemple, ils savent notre lieu de connexion, avec quoi ? Ordinateur, smartphone ou encore tablette. Ils savent aussi notre âge, notre sexe, nos heures de connexion, nos goûts et habitudes de navigation. Et même grâce à notre temps passé sur le site, la vitesse à laquelle on lit. Internet devient l'espionnage du futur. Pour récolter sur nous toutes ces informations, chacun a différents outils. Le premier de ces outils est le cookie. Je te vois sourire, Léa, mais malheureusement, nous n'allons pas parler de ce petit gâteau fort appétissant, mais de son synonyme sur le web. Un cookie sur Internet, bien sûr, est un petit fichier de données que les sites Internet placent sur notre ordinateur pour mémoriser nos préférences ou pour pister notre activité, parfois à travers plusieurs sites. Le deuxième outil, qui est selon moi le plus fourbe, le bracelet connecté, qui relève notre pouls, notre temps de sommeil et nos calories. Il recueille sur nous des infos très confidentielles. Le pire, c'est que tout cela se fait dans le plus grand secret, sans que nous en soyons au courant. Et le dernier outil, ce n'est pas vraiment un, est lorsque nous oublions de nous déconnecter des réseaux sociaux. Tout ce que nous faisons est alors surveillé encore plus étroitement. Je trouve tout ça révoltant, inadmissible, car on peut se demander ce que ça va donner dans le futur. Chacun se rend conscience de nos pires comme de nos meilleurs secrets. Et on pourra se demander si nous avons encore ne serait-ce qu'un peu de liberté, finalement. Pourtant, la liberté est une des principales valeurs de notre République. Certes, pour le moment, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Mais lorsque vous rentrerez chez vous, ou que vous aurez un peu de temps, tapez votre prénom et votre nom sur le web et regardez ce que l'on sait sur vous. Certes, vous ne verrez pas tout, mais vous aurez un aperçu. Faites donc attention à tout ce que vous laissez à Internet sur vous.
La traçabilité laisse aussi place à un nouvel angle d'attaque pour les pédophiles. À l'adolescence, près d'un enfant sur cinq a déjà été approché par un pédophile via Internet. Ce qui voudrait dire que, dans notre collège par exemple, 90 élèves auraient probablement déjà été en relation avec un pédophile.
Voilà, nous espérons vous avoir un peu éclairé sur les dangers du web et nous laissons notre place à un groupe de personnes qui va vous délivrer un message citoyen.
Ah bah ça tombe bien parce que c'est notre thème. Donc, je suis bien entourée à ce que je vois. Bonjour à tous.
Bonjour.
Quand vous voulez, c'est parti.
Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire.
Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Prenez la vie du bon côté, riez, sautez, chancez, chantez, et vous serez un ours très bien léché.
Et bien voilà, tout est dit pour aujourd'hui. C'est avec joie et bonne humeur que s'achève la troisième émission de Radioactive et de l'action Parole aux collégiens. Je remercie vivement et chaleureusement ceux et celles qui auront donné leur parole citoyenne. Je remercie aussi toute l'équipe éducative du collège pour leur soutien et leur accompagnement. Cette émission était imaginée, construite et produite pour vous, chers auditeurs. J'espère que vous aurez passé un délicieux moment en notre compagnie. C'était Eléa en direct du collège de la Source, à Mout. La semaine n'est pas finie et nous souhaitons qu'elle soit ensoleillée autant que printanière. Bonne route, bon vent et à une prochaine !